Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 5, épisode 30, avec autour de la table toujours nos chroniqueurs, aujourd'hui au nombre de deux, et on va commencer avec toi mon Charles, comment tu vas bien ?
Bah écoute, ça va très bien, merci, et je voulais en profiter pour déjà faire un gros bisou à l'équipe des Arrows Tottenham, mon club, qui ont joué ce week-end les qualifications pour les championnats de France développement, et on s'est qualifié donc avec notre équipe pour les championnats de France qui se dérouleront le dernier week-end de juin à Clermont-Ferrand. Donc le touch qui n'est pas forcément un sport très connu, donc n'hésitez pas à aller vous informer et tout. C'est, en tout cas, nous on sera là-bas pour potentiellement devenir champion de France développement.
Et bah, le message est passé.
Et on salue Quentin.
Quentin et toutes
les... Et à côté de moi, Jean-Marc. Salut mon pote, comment tu vas bien ?
Salut, salut, ça va bien. Et moi, j'en profite pour saluer les Ch'tis Canaries qui étaient descendus au stade Océane du Havre pour encourager nos féminines. C'était dimanche.
On en reparle. Et pour nous accompagner en régie, c'est Maëlane. Salut Maëlane, comment que ça va bien ?
Salut, ça va bien. Bah écoute, moi, j'en profite pour... rien en fait.
Eh ben rien, c'est bien noté. Alors au sommaire de cette émission, on va commencer par le football. On revient sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une page Ligue 1, foot étranger dans la foulée. C'est notre page Sport Méca, bien sûr, MotoGP, Formule 1, WRC. Puis on enchaîne avec le vélo. Il y avait deux classiques de printemps les deux dernières, hein, la Flèche Wallonne, Liège, Bastogne, Liège. Les résultats de nos clubs nantais. Et pour terminer, eh bien, on parlera de golf, de foot et de top 14. Voilà, gros programme, Maëlan, on est parti. C'est le Prune Football Club.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et focus sur les quarts retour de la Ligue des Champions, mon Charles, et grosse surprise lors de ces matchs retour avec l'élimination du Bayern.
Exactement, c'était finalement... la grosse équipe qu'on attendait finalement au moins en demi-finale de Ligue des Champions et qui finalement se sont fait avoir déjà au match aller avec une défaite 1-0. Hein. On s'en souvient, ce fameux but de Danjuma. Et là, patatras, c'est bis repetita. Cette fois, ils n'ont pas réussi à faire la différence comme ils avaient réussi à faire à domicile en 8e face à Salzbourg où ils les avaient explosé 6-1, si je crois bien.
7-1, je crois.
7-1 même d'ailleurs. Mais voilà, et là, résultat, ils n'ont pas réussi cette fois à faire la différence et se sont fait finalement punir en
toute fin de match. C'est le Bayern qui avait ouvert le score par Lewandowski. On se dit, bon,
là, ça va le faire.
Ça va le faire. Et puis, Villarreal a bien résisté et le joueur, j'ai plus son nom.
Chukwueze.
Je pensais à celui qui avait. Permis au Bayern d'ouvrir le score et qui a fait une belle ouverture, j'ai plus son nom. Ça finit dans les pieds de Chukwueze sur une magnifique contre-attaque à 2 minutes de la fin. Et du coup, c'était plié.
Exactement. Et on a eu finalement, Villarreal, c'est un club dont on sait qu'ils ils ont gagné les Ligues Europa l'année dernière avec Unai Emery, en battant notamment Manchester United en finale. On ne s'attendait pas vraiment du tout à les voir à ce niveau-là et à les attendre finalement en demi-finale et surtout éliminer le Bayern. Ils ont éliminé notamment le Benfica Lisbonne en 8e. Bon, ça restait pas le Benfica, c'est un autre club, ils ont éliminé l'Atalanta.
L'Atalanta Bergame.
Donc bon, on s'est dit, ils peuvent passer ce tour-là, mais aller éliminer le Bayern, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est quand même un des plus gros clubs mondial aujourd'hui. Et finalement...
C'est un club qui est toujours présent, en plus, le rendez-vous des demi-finales.
C'est ça, hein, c'est vraiment un club très présent.
Ça montre bien que ça reste du football. Et puis en football, exactement. Tout est possible, la preuve. Hein, le grand favori au tapis, en tous les cas. Un des grands favoris au tapis est Villarreal, l'outsider, hein, qui continuera sa route. On attendait aussi du spectacle à Bernabéu pour le match retour face à Chelsea. Il fallait une remontada, elle a eu lieu.
Et c'est ça. On a eu le droit à une magnifique remontada de Chelsea, 3-0.
Je dirais même une double remontada, puisque dans le scénario...
Dans le scénario, finalement, première remontada, 3-0 pour Chelsea, Mount en première période, Rudiger et Werner en seconde période. Là, on se dit que Chelsea a fait le plus dur.
Surtout que Chelsea aurait pu mener 4-0.
C'est ça, ils ont eu énormément d'occasions pour mener plus. Et patatras, Rodrigo qui finalement assomme finalement les Blues de Chelsea avec un but à la 80e. À ce moment-là, 3-1, on a compris que ça allait être compliqué.
Et qu'il fallait en passer par les prolongations.
Et là,
comme d'habitude, Benzema est sorti de sa boîte.
Encore
et
lui.
C'est lui qui donne la qualif au Real.
Exactement. C'est
Benzo est arrivé.
C'est un peu le sauveur. Hein,
c'est ça. C'est depuis un mois. C'est
un joueur non masqué.
Il enchaîne l'élection de performance.
Et le Real vers peut-être vers une 13e Champions.
C'est possible, effectivement c'est possible. Faudra forcément passer par les demi-finales. Et là il y a un autre gros club qui les attend, on va en parler juste après. Mais juste pour parler de Benzema, il est sur une saison record. C'est sa meilleure saison en termes de statistiques depuis le début de sa carrière. À son âge, hein, il a 34 ans quand même, 35 ans. C'est quand même, il est plutôt jeune et pourtant il arrive encore à faire des performances incroyables. Et là, c'est possiblement peut-être le futur prochain Ballon d'Or. Bon, ça se jouera, on verra encore la fin de la Ligue des Champions, tout ça. Mais c'est pour dire quand même le niveau actuel du joueur, c'est qu'il est quand même dans la discussion pour le Ballon d'Or.
Ouais. Alors tu parlais de Benfica tout à l'heure, t'es juste trompé d'adversaire parce que c'était Liverpool.
Exactement.
On se disait qu'après le match aller, victoire 3-1 de Liverpool au Stadio de la Luz, c'était fait. Eh ben non, Benfica s'est bien battu, score final 3 partout, un très beau match à Anfield.
Mais ça suffit pas pour les Portugais qui restent à quai.
Non, en plus, c'est au moins, ils ont pas perdu parce que déjà ils étaient menés 3-1, ils ont réussi à revenir à 3-3. Après, il y a même eu un but qui a été invalidé à la toute fin du match pour Darwin Núñez, hein, pisté par les très grands clubs, l'attaquant uruguayen qui est vraiment très performant avec Benfica. Mais on savait aujourd'hui que la marche était un petit peu trop haute pour Benfica. Liverpool, c'est aujourd'hui un des meilleurs clubs du monde, vainqueur de la Ligue des Champions encore très récemment, et surtout et qui se bat aujourd'hui avec Manchester City pour la première ligue. Donc pour la logique est respectée.
Allez, City, le dernier qualifié, hein, qui a peiné pour éliminer les Colchoneros, mais c'est fait, qualifié 0-0 sur le terrain de l'Atlético.
Ouais, petit peu dommage comme match. J'en profite pour saluer Vince, qui est
en
direction de Hambourg pour aller voir le St Pauli. Et un match, un 0-0, pas beau. Avec
City a fait du Atlético Madrid.
C'est ça.
Bien défendu.
Et puis, il aurait pu y avoir quelques occasions pour l'Atlético, mais il y a eu quelques occasions, mais tant que ça.
Rare.
Et puis surtout, fin de match où Felipe pète les plombs.
Beaucoup de cartons jaunes, ça se barre en stake.
Un attentat qui mérite largement un carton rouge. Oui. Et la très mauvaise image, un peu décevante des Colchoneros.
Un petit peu des mauvais perdants. Voilà, on sait qu'ils ont l'habitude d'avoir des joueurs assez vifs. Et très qui réagissent fortement, et puis forcément, là dans ces conditions, surtout forcément, City faisait un peu gagner du temps et tout. Il jouait le jeu que tout le monde joue finalement,
exactement.
Et c'est ça le problème, c'est que finalement, tu acceptes jamais quand ça va pas dans ton
sens. Je crois qu'il pète un plomb derrière, mais surtout quand tu vois la réaction de Felipe qui fait un gros tacle avec une faute et qui rajoute un coup de pied. Ouais. Je pense qu'il ne sera pas oublié par la commission, et moi je parie sur 6 matchs de suspension la saison prochaine.
Oh, peut-être pas quand même.
Ah, tu verras que ça va tomber dur. Ouais.
Mon avis, c'est plutôt 3 avec un sur 6.
Pour moi, je le vois rater tous les matchs.
Ah ouais.
Allez, un mot sur la Ligue Europa Conférence avec l'OM qui se hisse en demi de Ligue Europa Conférence.
Exactement.
Après sa victoire face au PAOK Salonique.
Exactement. Bah, dernier club français un petit peu rescapé hein, de ces, des Coupes d'Europe. L'OM qui devait finalement, logiquement, sur la double confrontation, battre le PAOK Salonique dans une ambiance très...
On savait qu'au stade Tunda, puisqu'il s'appelle comme ça, c'était électrique. Hein. On vous rappelle que les Marseillais n'étaient pas autorisés. Et on leur avait conseillé, d'ailleurs, l'entraîneur, je trouve ça scandaleux, hein, ce qu'a dit l'entraîneur du PAOK Salonique, qui conseillait aux Marseillais de ne pas se déplacer pour leur sécurité. Là, on voit qu'on frise
la menace.
Enfin, la menace, c'est ça. Donc, du coup, ben, Marseille a très, très bien résisté grâce à un énorme Steve Mandanda.
Et Payet qui marque encore une fois.
Et Payet qui
une
marque.
Très bonne saison pour lui. Et du coup, qualifié. Ils affrontent notamment le Feyenoord Rotterdam qui a éliminé le Slavia Prague. Dans l'autre demi-finale, ce sera une plus grosse confrontation entre Leicester et l'AS Rome qui ont respectivement éliminé Bodo Glimt et PSV Eindhoven.
Très bon match.
Plus de représentants français en Ligue Europa, mais on peut quand même donner les demi là aussi.
Exactement. Les Lyonnais qui malheureusement se sont fait éliminer au match retour, fessés
à domicile
par West Ham 3-0. Net et sans bavure, les Lyonnais n'ont pas été assez finalement réalistes en première période pour pouvoir espérer au moins faire match nul et pourquoi pas après aller se qualifier. Mais ils ont été devant le but, ça a été compliqué comme depuis le début de la saison. Et du coup, West Ham qui a très bien réagi, une très bonne équipe de première ligue cette saison sous les ordres de David Moyes qui réalise encore de très bonnes performances avec cette équipe. West Ham qui du coup affronteront l'Eintracht Frankfurt. Tombeur, cette fois eux, de FC Barcelone. Grosse performance, surtout au Camp Nou.
Exactement.
Et les Glasgow opposés à Leipzig.
C'est ça, les Glasgow Rangers qui étaient eux-mêmes dans la poule de l'Olympique Lyonnais, que Lyon avait fessé au match aller match retour, et qui finalement, eux, sont en demi-finale après avoir éliminé Braga, tombeur de l'AS Monaco, dans l'autre demi-finale.
Justement, c'était ma question. Ouais. Est-ce que vous préférez un match entre les Rangers et West Ham ou
un duel
Francfort
Leipzig. En vrai, pour la beauté, j'aimerais bien voir les Rangers face à West Ham ou Francfort. J'aimerais voir les Rangers qualifiés, ça serait beau. Et puis, pourquoi pas, oui, après, dans l'autre demi, moi, je laisse le plaisir du football parler. Et voilà, donc Leipzig qualifié qui a éliminé l'Atalanta Bergame.
Allez, on enchaîne sur la Ligue 1 et nos Canaries, évidemment. 34e journée de Ligue 1 à la Beaujoire à 15h. Les Canaries recevaient Bordeaux. Et on a vu du spectacle, on a vu des buts.
Ah, 8. C'était quand même une semaine de spectacle pour les Nantais, puisqu'ils s'étaient déplacés dans la semaine à Marseille. Défaite 3-2 avec deux pénaltys pour les Marseillais. Alors, voilà. On ne fera pas de déclat, on est juste content que M. Buquet n'arbitre pas la finale. Hein. Je vous rappelle que ce sera Stéphanie Frappard qui fera l'arbitrage. Hein.
Est-ce qu'on peut être content pour autant
Au moins, on sait surtout qui on a évité. Hein.
Oui, déjà,
Je te laisserai ma petite liste des gens que je voulais pas avoir. Après cette défaite 3-2, mais qui restait encourageante.
Oh oui, parce que franchement, Nantes a fait un très bon travail. Ils ont notamment ouvert le score grâce à André Giroto. Ils se sont fait égaliser sur un penalty. Ils ont
Khalifa Koulibaly qui redonne l'avantage.
Marcus Coco qui redonne l'avantage. Et donc finalement, là, Nantes qui fait une très bonne première période. Malheureusement, Fabio qui dégoupille, enfin nous fait un tacle, mais de sauvageon. Enfin, c'est une aberration de faire un tacle comme ça dans la surface.
Mais qu'il le touche peut-être pas vraiment.
Le problème, c'est qu'il le touche un petit peu et c'est malheureusement l'arbitre ne peut pas revenir.
Après, sur le geste, il y va tellement fort.
Harit nous crucifie, l'ancien Nantais, à la 75e. Malheureusement, défaite 3-2. Marcus Coco prendra un carton rouge même en fin de match suite à deux cartons jaunes. Donc, défaite en terre marseillaise, mais plutôt encourageante sur l'ensemble de la rencontre avec des bonnes performances nantaises qui, du coup, se répercutent sur ce match face à Bordeaux. Belle
et
victoire 3.
Sous l'orage du dimanche.
Mené 2-0 à la mi-temps. Hein,
exactement.
Les Canaries étaient quand même mal engagés dans cette... dans cette journée de championnat, et ils en ont mis 5 en deuxième.
Oui, alors avec un scénario de fou. Hein.
Et là, puis temps de merde.
Oui, un orage, mais du coup, qui a électrisé les Nantais, on va dire ça comme ça. Retour des vestiaires, c'est Khalifa Koulibaly qui marque à la 47e. Derrière...
Ricardo Manga compte son camp, 4 minutes après.
Bordeaux va reprendre l'avantage.
Encore un ancien Nantais, c'est Enoch Kouateng.
Exactement, avant que
5 minutes après, Koulibaly.
C'est Koulibaly qui égalise. Nantes va prendre l'avantage par Moses Simon, 76e. On se dit ça y est, c'est bon.
Ouais.
Bordeaux, un pénalty.
Jimmy Briand, eh ben, y a pas
il tombe sur la fond.
Tombe sur la fond. Et puis Boukari vient sceller la victoire à la 89e. Et ben, on a le droit finalement à un scénario. C'était rocambolesque.
Un match magique. En plus, la plupart des buts sont magnifiques.
Ouais, exactement. Donc en plus, avec un excellent Koulibaly, lui qui est souvent décrié, surtout cette saison, début de première partie de saison. Voilà, ça a toujours été un joueur avec qui... Il y a un petit peu... Voilà,
peut-être pouvoir le revendre très cher, non? C'est pas ça.
Non, mais voilà, il fait jouer depuis qu'il est titulaire, depuis 2-3 matchs, il marque des buts. On s'en souvient notamment, c'est face à Angers, il marque le but égalisateur. Donc,
il est sur une bonne série.
Il est sur 4 buts en 3
matchs. Il est sur une bonne série, il a été replacé du coup avant-centre, ce qui décale Randall Colomwani sur la droite, qui lui fait aussi perdre un petit peu son importance dans le jeu à Randall.
Ça permet d'avoir une solution, c'est vrai que sur les côtés, qu'on avait peut-être moins. Une solution vraiment offensive. Avec qualité de débordement, de technique et c'est vrai que d'avoir un vrai buteur de tête qui peut lui faire de bonnes déviations et tout et être présent au poste et ça peut finalement ça fait un petit peu du bien.
Un gros point d'ancrage.
Mais c'est ça. Et on a bien vu que ça marche.
Comme tu dis.
Peut-être un peu moins bien avec Colomwani ces derniers temps. On a vu que au bout d'un moment Nantes s'était un peu essoufflé. De retrouver finalement une nouvelle dynamique avec un nouvel finalement dispositif et de nouveaux joueurs qui en plus performent, finalement ça peut faire du bien et donner un nouvel élan en cette fin de championnat.
Ouais, Nantes est 10e et se déplacera à Lens la prochaine journée.
Parce que Nantes est 10e à 50 points, mais seulement à 6
on n'ira pas chercher l'Europe, je te rassure. Hein, c'est serré, mais c'est
serré. Il reste 4 matchs, on sait jamais.
Mais surtout, bon, les Nantais se replacent.
On parle des Rennais. Qui eux se replacent pour l'Europe du coup après une série de 3 matchs sans 3 défaites pardon de rang hein, en championnat les Rennais mettent une fessée au voisin l'Orienté
la Manita et encore une fois on a eu un très bon Bourigeaud qui m'ouvre le score. Martin Terrier 21e but de la saison, meilleure saison de sa carrière et deuxième meilleur buteur de Ligue 1, excellente saison pour l'ancien Lyonnais. Amari Traoré, Flavien Tay et Gaëtan Laborde en toute fin match du coup aggraveront le score. Et franchement Lorient qui après une belle victoire notamment la semaine dernière face à Saint-Etienne cette semaine du coup face à Saint-Etienne 6-1 avait finalement réalisé une très belle performance là 5-0 la balance est déséquilibrée.
Ouais, ouais. 3 points de la zone rouge, attention Lorient.
Moi j'ai envie de te dire Lorient a quasiment assuré de jouer un barrage.
Il y a tellement d'équipes derrière.
Ils ne descendront pas directement grâce à leur victoire à Saint-Etienne. Donc peut-être qu'ils étaient
12 points à partager, ils auront
plus relâchés contre Rennes et du coup ils ont...
Surtout que dans le même temps, les équipes de fond de classement ne gagnent pas non plus.
Oui, donc, puisque Brest a été gagné à Metz, 1-0.
Clermont et Angers ont fait 2 partout. Donc Clermont qui ne prend qu'un point. Reims qui perd face à Marseille, 1-0.
3 a perdu également.
3 a perdu. Saint-Etienne a perdu 4-1 sur son terrain face à Monaco. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant de quoi finalement s'alarmer du côté l'Orienté, mais... En tout cas, c'est sûr que ça va être encore très serré pour surtout la place de barragiste.
Bon, est-ce qu'on parle du 10e titre de Paris?
Ils ont un 10e titre.
Premier commencé, si j'ai bien de mémoire, en 86.
Exactement.
86, donc même pas 40 ans plus tard, 10 titres, c'est du jamais vu en France. Hein.
Oui, si, l'argent achète tout. Saint-Etienne, on a 10.
Oui, mais ils n'ont pas eu en 40 ans.
Saint-Etienne a mis plus de temps, évidemment.
Saint-Etienne a commencé en 67, c'est-à-dire juste après Nantes.
Après, c'est leur 7e ou 6e titre pour le Paris Saint-Germain sur les années qataries.
Oui, en fait, il y en a 8.
8 même.
Sur les années qataries, il y en a 8. Bon, après, voilà, ça reste tout relatif. Non, moi, je voulais juste revenir sur un petit mot. C'était la victoire difficile de Nice dans les arrêts de jeu face à Troyes. De bon augure pour la Coupe de France et j'en profite pour vous rappeler que demain sont mises en vente 10 000 places supplémentaires sur le site de la Fédération. Alors tous les Nantais qui n'ont pas leur billet, achetez-le et vous serez plus nombreux que les Niçois.
Bon, allez, vite fait à l'étranger.
Ouais, alors du coup, on va en profiter pour parler un petit peu d'Espagne. C'était notamment la finale de la Coupe du Roi. Donc, qui allait être the King of the Spain? Et c'était le Betis Séville de Nabil Fekir qui se sont imposés 5-4 au tir au but après un match un partout dans le temps réglementaire. Borja Iglesias qui ouvrait le score en 10e minute. Hugo Duro égalise pour Valence. 5-4. C'est Musa qui rate son pénalty, le 4e tireur de Valence. Du coup, Juan Miranda, le local de l'équipe formée au Betis Séville qui donne la victoire du coup au Betis. Un premier trophée pour
J'en profite pour te poser la question. Ça faisait combien de temps que le Betis n'avait pas gagné la Coupe d'Espagne?
Ça a longtemps.
17 ans.
17 ans. C'est, voilà. Donc, j'étais à peine né, donc c'est pour dire la date, c'est pour dire que...
Il faut être patient. C'est très bien, patient. Très bien pour Fekir. Hein,
c'est ça, c'est un nouveau titre.
De gagner dans un club qui ne gagne pas souvent, qui a souvent été relégué d'ailleurs ces derniers temps, hein, qui est vraiment à l'ombre quand même du Séville FC. En championnat, moi j'ai noté, et la je suis défaite. Très content, la super victoire du Rayo Vallecano, le troisième club de Madrid, qui l'emporte au New Camp, avec un but magnifique.
Alex Garcia.
Exactement, il est super beau ce but.
Il est magnifique, et du coup le FC Barcelone qui enchaîne malheureusement pour eux une nouvelle défaite. Hein. Ils sont en train d'être un petit peu plus dans le dur, eux qui pourtant avaient la possibilité de revenir sur le Real Madrid au moment où le Real Madrid perdait notamment son dernier match et qu'eux ils pouvaient gagner, mais finalement ils enchaînent malheureusement un petit peu plus difficilement avec notamment du coup ces 3 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et notamment 2 défaites à domicile face à Cadiz et face à Rayo Vallecano sur les 2 derniers matchs finalement au Camp Nou. Donc c'est pour dire les difficultés actuelles du Barça. Il y avait eu normalement une altercation, enfin pas une altercation mais une réponse notamment de Xavi et Carlos Ancelotti, où Xavi disait lui ce qu'il voulait c'est avoir une équipe qui joue bien et tout pour gagner, et Carlos Ancelotti avait dit que lui il voulait une équipe pour du coup pour bien jouer mais pour gagner des titres, et c'est là où on voyait la différence, ouais, forcément la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid. On peut parler aussi un petit peu d'Angleterre.
Liverpool et City pour le titre. Un point d'écart toujours entre les deux équipes.
City qui s'impose facilement 5-1 à domicile face à Watford, notamment avec un quadruplé de Gabriel Jesus, le premier de sa carrière en Premier League. Et donc c'est une belle victoire pour Manchester City.
Et dimanche, c'était le derby de la Mersey.
Exactement.
Entre Liverpool et Everton, 240e derby, je crois, quelque chose comme ça.
Et Liverpool continuera à rester en tête et à gagner avec une victoire 2-0. Les buts de Andy Robertson et de Divock Origi.
En Italie, Giroud espère toujours le Scudetto.
Et c'est pour l'instant potentiellement bien parti. Une victoire 2-1 en toute fin de match sur le terrain de la Lazio de Rome. Ciro Immobile avait pourtant ouvert le score très rapidement dans la rencontre à la 4e minute de jeu, mais Olivier Giroud, le serial buteur français, avait égalisé à la 50e et Sandro Tonali allait donner la victoire à la 92e dans le temps additionnel. Une victoire qui fait du bien à l'AC Milan, qui permet du coup aux Milanais de rester en tête juste devant les Interistes avec 2 points d'avance, même si l'Inter
un match joue ce soir, je crois.
L'Inter effectivement a un match en retard, mais ils jouent pas ce soir. Ils avaient joué samedi avec une victoire 3-1, mais ils ont un match en retard en fait, c'est pour ça. Une victoire 3-1 face à l'AS Rome.
En Allemagne, c'était le Top Spiel.
Le Top Spiel et le nouveau titre.
Alors c'est le 10e titre du Bayern d'affilée.
3e étoile.
On parle finalement du PSG dominateur en Ligue 1, mais on parle finalement, oh là là, l'hégémonie et PSG n'a pas de concurrence. Bon, en Allemagne, pour l'instant...
Et grosse fiesta à l'Allianz Arena. Hein.
Et Nagelsmann qui fait oublier finalement son élimination. Lui qui était un peu décrié après l'élimination face à Villarreal.
Et c'était surtout face à Dortmund.
Et là, c'était face à Dortmund, en plus la victoire, donc ça fait encore plus du bien. On a eu des buts notamment de Gnabry, l'éternel Lewandowski et puis le jeune Muscala.
Bon, on a été complet sur le foot, Maëlan, on va passer au sport méca, c'est Nitro.
Nitro, c'est toute l'actualité de sport mécanique tous les lundis soirs à 19h dans Money Time.
Et on démarre avec de la bécane, du MotoGP, bien sûr, Grand Prix du Portugal à Portimao, le Grand Prix le plus vallonné de la saison. Et Cocorico, je ne sais pas quand est-ce qu'il fallait remonter pour le doublé français, je crois qu'il avait eu lieu
l'année dernière. Avec le Grand Prix du Qatar.
Et ça y est, c'est rebelote pour nos deux Français, Fabio qui s'impose devant Johan. Pourtant, auteur de la pole ce week-end.
Exactement, on a eu un très beau week-end des Français qui avaient mal commencé finalement. Le vendredi, on les a vus plus en difficulté avec une piste notamment pluvieuse, très, très humide, très grasse, c'était compliqué pour eux. Quartararo était même très très loin, 18e à la fin de la première journée. Mais finalement, samedi, il a trouvé tous les réglages qu'il faut, une piste bien plus sèche. Et là, il a montré tout son talent, il s'est qualifié sur la deuxième ligne, 5e. avec un temps malheureusement annulé sur, lors des qualifications sur son dernier tour suite à un drapeau jaune dans le dernier secteur. Résultat, les temps, eux, ne sont pas validés, ce qui fait que finalement, il part que cinquième. Mais un départ mais flamboyant, il part un départ qu'on attendait. Hein. On attendait de voir ce genre de départ de Fabio Quartararo, on sait que c'était un de ses points d'amélioration. Il n'avait jamais réussi à bien partir, notamment face au Grand Prix d'Argentine, où il s'était mal élancé notamment, et du coup il n'avait jamais pu remonter. Bah là, cette fois, il s'est bien élancé, cinquième. Il passe troisième directement. Et alors, puis après,
le meilleur départ était pour Joan Mir. Hein.
Oui, Joan Mir, qui arrivait à passer directement en tête au premier virage. Et finalement, Quartararo passe Zarco, et puis dans le cinquième, sixième tour, il passe Mir et là, 5 secondes d'avance à la fin, c'est pour dire vraiment, il était largement... Ouais,
alors, on disait qu'il avait une moto pourrie qui avançait pas. Comment ça se fait que sur ce circuit...
Il y a moins de lignes droites, ça a moins besoin forcément de
Il y en
de
a puissance. Eu quelques-unes, notamment dans celle des stands où Zarco a réussi à reprendre sa deuxième place, donc il aurait pu être aussi attaqué.
C'est un circuit assez technique finalement, où il faut vraiment avoir quand même une très bonne équilibre sur sa moto. Là où la Yamaha est plus maniable et tire mieux ses pneus face à un circuit où il y a beaucoup de dégradation comme Portimao et forcément du coup ça profite finalement au Yamaha par rapport à des Ducati.
Un petit mot sur Jack Miller, champion de bowling.
Jack Miller
qui sort
ça se fait pas ça hein, surtout face à Mir qui jouait la tête du championnat.
Il sort Mir en mode bowling quoi.
Ouais j'ai apprécié virage. Parce que Zarco était devant donc vraiment
mais la vraie piste
ça
de bowling,
assurait la deuxième place.
Mir a moins apprécié parce qu'il a mis un grand coup sur le casque à Miller pour lui dire tu me casses les pieds toi.
La vraie partie de bowling ça a été en moto 2 non.
C'est ce que j'allais te dire.
On va en parler juste après et tout.
Bon, on a vu que derrière l'accrochage Zarco était tranquille pour la deuxième place hein, puisque Espargaro devait quand même cravacher pour revenir exactement. D'ailleurs il était sur ses traces hein, mais il n'a pas réussi à le passer dans le dernier
exactement.
Tour.
Exactement, on se souvient d'aller chez Espargaro pour sa victoire notamment en Argentine et voilà, il complète un nouveau podium pour lui avec une troisième place magnifique. La prière.
Le leader Bastianini aussi qui finit le cul par terre, ça c'était pas pour déplaire à notre Fabio puisque c'est 25 points de perdu pour Bastianini et la tête du classement.
Exactement, c'est aussi Jorge Martin qui aussi chute et lui continue finalement sa mauvaise pour l'instant début de saison malgré son rythme, il avait un très très bon rythme malheureusement donc pour lui le coéquipier de Johan Zarco.
Les frères Marquez.
Frères Marquez qui
dans les points qui se battaient pour les places d'honneur.
C'est ça, 6 et 7. Malheureusement des qualifications qui ont coûté cher aux frères Marquez notamment pour Marc Marquez qui est même situation que Fabio Quartararo, drapeau jaune dans le secteur, son temps est annulé alors qu'il avait la pole provisoire à ce moment-là. Du coup, il repasse 9e. Ça a été très compliqué après pour lui de dépasser. Ce qui nous fait qu'au classement, Fabio Quartararo est en tête, 69 points.
Execo avec Rins, qui n'a pas gagné par contre.
Non, il n'a pas gagné, mais il fait une belle 4e place et il accumule des points.
C'est la régularité.
Exactement.
3 points d'avance sur
Espargaro.
Bastianini est à 8 points. Et le 5e, c'est Zarco.
Donc Quartararo en tête, c'est que sa Yamaha n'est pas si pourri que ça.
Non, elle n'est pas pourrie, elle s'est tournée.
Ça dépend
si tu fais
du
sur
circuit.
Une piste d'aviation où tu fais l'aller-retour, il va être embêté.
Ça, il faudrait qu'il fasse de l'ovale. prochain Grand Prix, c'est en
Jerez de la Frontera.
Jerez, Grand Prix d'Espagne, le dimanche prochain.
Exactement, et on se souvient notamment de son doublé à Jerez de la Frontera, notamment il y a 2 ans. Donc on sait que c'est un circuit qu'il apprécie beaucoup. Il avait notamment les dernières eu un problème au niveau du bras, le fameux syndrome des loges, qui l'avait contraint finalement à abandonner le top 10 alors qu'il était largement en tête. Il n'y avait plus à guidonner. Donc c'était compliqué pour lui. Donc là, à mon avis, on va encore assister, je pense, à une très belle performance de Fabio Quartararo. Et du coup, le bowling, c'était en Moto 2, ou fameux, c'est donc la course d'après la Moto GP. Et finalement, il y a
quelques gouttes de pluie.
C'est ça, des gouttes de pluie, drapeau blanc à croix rouge agité pour dire qu'il y a effectivement des gouttes de pluie et que la pluie arrive. Et puis, virage 2, la pluie était là.
15 motos par terre, un truc
15
comme
motos,
ça.
Un
donc la course
15
repart après ça, ouais.
La course repart, sauf que pour les motos qui ont chuté, drapeau rouge, mais du coup, il faut être 5 minutes dans la voie des stands après sa sortie du drapeau rouge, ils ne l'ont jamais été. Résultat, tous les favoris, c'était quasiment les 10 premiers au classement, se sont fait avoir et du coup ont tout chuté et résultat, eux sont
éliminés.
Donc on a la victoire de Joe Roberts, l'Américain, qui lui était derrière à ce moment-là, important. Hein.
Donc il a bien fait de partir derrière.
Il a bien fait finalement. Et pareil pour Celestino Vietti qui lui était aussi en tête du championnat Moto2 et qui lui partait beaucoup plus loin et qui finalement lui a pu prendre des gros points par rapport à ses concurrents qui eux étaient devant et qui ont chuté.
Mais l'image était vraiment impressionnante.
Ah, vraiment, c'était impressionnant. Tout le monde chutait.
Même une moto en feu. Enfin, ouais, c'était
allez, on enchaîne bordel. Avec les bagnoles. On parle de Formule 1. Où est-ce qu'on était ce week-end déjà ?
Imola, en Italie. À 10 km d'AlphaTauri.
La victoire pour Verstappen.
Exactement. Max Verstappen, qui après sa déconvenue en Australie et son abandon, et bah là, cette fois, a encore une fois une nouvelle victoire pour lui. Deuxième après celle en Arabie Saoudite.
Parlez-moi un peu d'Hamilton.
Ça a été le plus fort, en tout cas Verstappen. Alors qu'à l'inverse d'Hamilton, qui était le grand rival l'année dernière, bah, lui est au fond du trou.
Alors c'est la bagnole là aussi qui avance pas ?
Ah, oui, une bonne question, parce que pour l'instant, Russell, lui, fait quatrième. Donc, est-ce que c'est que la bagnole ? Bonne question.
Il n'y a peut-être pas que ça. Mais après, voilà, bon, on voit surtout que début de saison, bah, c'est les Ferrari qui sont bien. Ouais. Sauf que, alors, c'était une course sprint samedi, les qualifs.
Il y avait la fameuse course sprint du samedi où Leclerc avait pris le meilleur départ et avait directement passé Verstappen au premier virage. Mais derrière, dégradation des pneus, on ne sait pas pourquoi, graining, il n'a pas.
Ça vaut quoi les courses sprint ? Vous regardez un petit peu, c'est intéressant.
C'est sympa, ça dure pas trop longtemps.
Ça dure 15 tours
ça dure, non, c'est une 20
tours.
20 tours. 20 tours. C'est à peu près 100 km.
Ouais, c'est
donc ça dure une bonne demi-heure.
Et ça définit la grille. Hein.
Ça définit la grille du lendemain, sachant que depuis cette année, la pole position officielle dans le livre des statistiques est attribuée à celui qui gagne la qualification du vendredi, qui définit la grille du samedi, qui elle-même, la course du samedi, définit la grille du dimanche. Donc voilà, donc c'est à l'inverse des années dernières où c'était le vainqueur de la course sprint qui avait la pole position.
Même, ils attribuent plus de points aussi. Avant, ils attribuaient des points qu'aux trois premiers, je crois.
C'était 3-2-1 et là, c'est 8 jusqu'au 8e qui lui prend un point. Donc c'est dégressif.
Doublé Red Bull, où sont les Ferrari ce week-end ?
Et les Ferrari, Sainz s'est fait sortir au premier virage par Daniel Ricciardo. Résultat, encore une fois, un mauvais week-end pour lui. 100 points après celui aussi en Australie. Et Charles Leclerc qui lui reste en tête du championnat après malheureusement
victime,
il était troisième.
Victime de la météo parce que il change ses pneus et puis il avait pas, il passe au slick et puis il pleuvait encore un petit peu. Il perd le contrôle de sa voiture alors qu'il est troisième.
Dans la chicane haute.
Et il arrivera à finir sixième.
Sixième quand même, alors qu'il repartait neuvième après son tête à queue dans les 5-6 derniers tours. Donc c'est pour dire qu'il a réussi quand même à grappiller des points.
Mais il a regretté lui-même, il l'a dit lui-même.
Ah bah oui.
Ma place aujourd'hui, c'était troisième derrière Verstappen et Perez. Mm-hmm. J'ai voulu tenter la deuxième place et j'ai fait une grosse boulette.
Bah c'est ça, c'est des points qui finalement ne sont pas finalement qui sont perdus et qui ne sont pas regagnables et qui malheureusement dans un championnat aussi serré finalement où ça va
cher,
être très très long, 23 Grands Prix cette année, pourrait lui coûter cher. Bon, il finit quand même 6e, ça va non plus, mais du coup il reste largement pour l'instant en tête du championnat avec 86 points. Il a donc 27 points d'avance sur Max Verstappen. Sergio Perez complète la 3e place avec 54 points. George Russell, encore lui, qui est très bien placé, quatrième à 49 points. Sainz, lui, décroché avec 38 points, hein, avec ses deux abandons sur les deux derniers Grands Prix. Au classement constructeur, les Red Bull reviennent très fort sur les Ferrari avec seulement 11 points de retard.
Prochain rendez-vous dans deux semaines à Miami. Alors,
le nouveau Grand Prix.
Bah ouais, c'est ça. À quoi il ressemble ce Grand Prix ? C'est un circuit en ville ?
C'est un circuit en ville, c'est ça.
Dans le quartier Art déco, je crois. Hein.
Ouais, exactement. Donc ça va être un très beau. Donc ça peut être un beau Grand Prix. On attend de voir ça parce que finalement on n'a pas eu encore. On connaît pas vraiment ce que ça va. Non, on sait que les travaux sont bientôt finis. Hein.
Attention aux plaques d'égout, ça se décolle. Hein.
C'est ça. Non, mais ça devient un petit peu. C'est quand même un peu ridicule de voir que le circuit n'est pas entre guillemets.
Et donc il y aura deux Grands Prix aux États-Unis puisqu'il y a Austin qui est prévu aussi. Hein.
Ah, oui, du coup deux avec Austin et puis Las Vegas qui arrivera dans les années 2023.
Ouais, ça aussi. Hein, on a hâte de voir ça. On passe en WRC. C'était le rallye de Croatie. La victoire pour le Finlandais Roven Parra.
Exactement, une Roven Parra qui du coup deuxième victoire pour lui après le rallye de Suède en février dernier, donc ça date un petit peu, mais donc voilà, deuxième victoire rien à dire, il a dominé ce rallye de Croatie devant Ottanat qui du coup c'est bien quand même bien affronté avec Ottanat qui est fini avec 4 secondes 3 d'avance derrière Thierry Neuville de 21 et très loin, mais il complète le podium.
Attention, les deux patrons font leur retour au Grand Prix du Portugal 18-21. Mais on parle d'Ogier et Loeb.
Les deux Seb pour le saut de Pfaff, le fameux saut au milieu des éoliennes. Ça devrait être très très sympa et ça va envoyer.
Ouais, on attend ça avec impatience parce qu'on ça passionne pas hein, la WRC sans bah, ses sans ses grands champions.
Sans les Français, sans ces deux Français.
Il bah, y a toujours Johan Rousset du coup le Rousset qui est présent qui finit 7e du Rallye Croatie mais du coup c'est pas encore le niveau de l'homme.
Non et puis ils ont des véhicules d'usine, hein, c'est des équipes privées.
Ça, c'est genre du Williams. Ça.
Bon ben on a été complet sur les sports méca, Maëlan. On va passer au vélo, c'est chasse-patate.
Chasse-patate. Les grands tours, les grandes classiques et toutes les infos de la saison cycliste. C'est aussi dans Money Time.
Et cette semaine, c'est les dernières classiques de printemps. Ça a commencé mercredi avec la Flèche Wallonne et son célèbre mur de Huy.
Exactement, le mur de Huy qui passait trois fois notamment hein, sur ce parcours. On a eu le droit notamment bah, du coup, à une explication.
Comme ouais, mais c'est toujours dans la dernière ascension que exactement, ça se passe. Hein, il ne se passe rien pendant 4 heures et puis on s'agite dans le dernier kilomètre.
Exactement, c'est celui qui a le plus finalement d'énergie, le plus de punch. Et cette année, c'est Dylan Dunce, le coureur de la Bahrain Victorious, qui s'est imposé.
Surprise, hein, parce qu'on attendait plutôt des Pogacar.
Bah, c'est un outsider. Hein, il a notamment deux victoires sur le Tour de France. On se souvient, lui, avec sa victoire notamment à la Super Planche des Belles Filles en 2019 et aussi au Grand Bornand en 2021, donc l'année dernière. Et sinon, il n'avait pas de grande marque sur les classiques. Et bah, là, une magnifique victoire.
Il s'affirme comme être un jumper, lui.
C'est un bon puncher grimpeur. Il a encore montré sur Liège-Bastogne-Liège, du coup, hier, on va en parler juste après, où il a encore été bien placé, bien présent. Mais voilà, donc il a montré qu'il était le plus fort aujourd'hui. C'est une course d'un jour, il faut être présent. Il a montré qu'il était le plus fort, rien à dire. Et devant, en plus, l'éternel. Alejandro
Valverde, le vainqueur de l'épreuve, hein. Je crois qu'il en a 6 lui. Hein.
Il en a 5. Il
allait chercher le 6e.
Il allait chercher le 6e, mais malheureusement, il a coincé à la toute fin avec Dylan Dunce. Alors qu'on pensait qu'il était un petit peu plus fort, qu'il revenait juste derrière.
Van Aert qui complète le podium.
Vlasov.
Vlasov Alexander Vlasov, le podium. Ouais.
Devant Alaphilippe, pas très aidé dans le mur de Huy par ses coéquipiers, il était un peu tout seul.
Ouais. Et... Remco a vite lâché, puis Van Sevenant était derrière. Lui, il avait suivi une première attaque, notamment dans la côte qui précédait le mur de Huy, qui a été rajoutée, notamment pour faire un peu plus un petit peu pour que ça soit potentiellement tenter et animer un peu plus la course que les années précédentes. Ça n'a pas trop été le cas.
Décevant mais sur le début de saison, hein, ouais. Alaphilippe. Hein.
Bah, Alaphilippe, il suivait surtout Pogacar, qui était malheureusement lui a complètement craqué, a fini 12e. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu décevant, hormis sa victoire sur le Tour du Pays Basque.
Il en a une sur Tirreno, je crois.
Une sur Tirreno, on sent que.
Ouais. Début de saison mitigé. Ouais,
et puis on va en parler sur Liège-Bastogne-Liège, parce que
la saison va s'annoncer.
Puisque c'était ça, hein, le grand monument qui nous attendait hier. Avec toujours...
La plus vieille course du monde.
En favori, les Wout van Aert.
Les Julien.
Julien, qui était Martinez, attendu. Evenepoel. Paul.
Tout ça. Et résultat, on a eu le droit à d'abord, au 60e kilomètre, la triste nouvelle, c'est la chute.
À 60 km de l'arrivée, évidemment.
La chute de Julien et Philippe qui malheureusement pneumothorax.
Ouais, chute de peloton.
Il est tombé dans le fossé.
Dans le fossé, 5 mètres plus bas. C'est Bardet qui a été le secourir.
Exact. Finalement, Romain Bardet n'a pas fini la course pour aider Julien et Philippe. C'est là aussi la beauté du sport.
Bon, saison pas terminée, mais...
Ça va être compliqué. Il va perdre un mois, au moins.
C'est ça, c'est pneumothorax.
Bah, c'est un drainage, hein, en cassé, principe.
C'est le bassin est touché aussi. Donc,
j'ai envie de dire compliqué pour s'aligner sur le Tour de France.
Là, c'est le Tour de France, à mon avis, c'est fini.
C'était mort.
Saison terminée.
Non,
il reviendra peut-être pour la Vuelta.
Pour le Tour de Lombardie.
La Vuelta, fin août, début septembre.
Ouais, voilà, les courses d'après.
Bon, pas de chance.
Ouais, et peut-être les championnats du monde, on verra bien.
Bon, Julien, cette année, il n'est pas au niveau.
Il est un ton en dessous et malheureusement,
ça va pas l'aider, ça.
Son objectif c'était Liège. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'il aurait donné. S'il n'y avait pas eu la chute, on ne sait pas ce qu'il aurait donné. S'il avait gagné, on aurait dit saison formidable finalement.
Maintenant c'est la période des grands tours. Bon, même si on sait bien qu'il aime le maillot jaune, mais
ça va être compliqué déjà.
Ça sera un Tour de France sans Julien Alaphilippe, hein, on peut penser.
Et du coup, au niveau de la course, dans la côte de la Redoute, c'est Bruno Armirail qui attaque. très très bien. Et puis derrière, dans la côte des Faucons.
Ouais, il est parti dans la côte de la Redoute, hein, Evan Paul.
De l'arrivée. Il est parti dans la côte de la Rotonde.
Dans la côte de la Redoute.
C'est celle avant la Redoute. Qui du coup, il est parti. Et là, personne n'arrive à le suivre. Il part tout seul. On le connaît. Il attaque souvent de loin. C'est un sacré rouleur en plus. Donc, très compliqué d'aller le chercher. Dans la Redoute, il continue d'accélérer. Il lâche pas. Malgré les attaques derrière, notamment des Dylan Tuns, notamment, de Valverde, de Sergio Higuita, Martinez, qui sont là derrière. Mais derrière, ça, malheureusement, ça n'arrivera jamais à le rattraper.
Bah, gros rouleur.
Vlasov a essayé. Mais c'est pas un aussi bon rouleur que Evenepoel.
Et du coup, il rejoint Armirail.
Notamment, il rejoint Armirail dans la Redoute. Armirail qui, malheureusement, craquera.
Il a tenu longtemps, 20 km.
Il était parti dans l'échappée, lui. Hein.
Il était dans l'échappée, c'est le seul rescapé de
le dernier qui s'est fait coiffer.
Mais malheureusement, lui, il n'avait plus d'énergie. Hein, dans
il a tout donné, il a juste essayé de suivre et à un moment...
Bon,
il
et pour 40 secondes, 48, il tient devant un petit peloton.
Petit peloton et qui sera dominé par Quentin Hermans, le belge de la Wanty-Gobert Intermarché.
Triplé belge alors sur Liège-Bastogne-Liège.
Qui finit troisième.
Triplé belge, Evenepoel, Hermans, Van Aert.
Le premier français, c'est du coup Wayne Barguil, 15e devant juste Bruno Armirail. Du coup, donc pas de français qui finalement performe et tout. Mais du coup, on aura le droit à un superbe triplé belge avec une victoire belge. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de victoire belge. La dernière, c'était pour Philippe Gilbert, si je m'en
80...
souviens bien.
C'est 2001.
2011.
Donc 2011.
Ça faisait 11 ans qu'on n'avait pas eu un belge.
Philippe Gilbert qui faisait son...
Ouais, il faisait son dernier Liège-Bastogne-Liège.
Dernier. Et du coup, lui, malheureusement, il n'a pas forcément existé, on le connaît, hein, c'est un petit peu mieux maintenant.
C'était un tour d'honneur, en fait.
Exactement. Non, mais il faut se rappeler qu'il y a 11 ans, quand il a gagné Liège-Bastogne-Liège, il avait gagné la Flèche Brabançonne, la Flèche Wallonne et... L'Amstel Gold Race, donc il était dans un énorme mois. Voilà Maëlan, on en a fini pour le cyclisme, on va parler de nos clubs nantais, en tous les cas ceux qui sont sur le pont encore, c'est Score en Stock.
Money Time. Score en Stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais, Score en Stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence par le foot féminin, et puis ce match dont je vous parlais tout à l'heure, le match important, le déplacement des Nantaises au stade Océane du Havre. Nantes qui aura bataillé tout le match, encaissant un premier but à la 14e minute. Charlotte Lorgerie, la capitaine, va égaliser la 29e, Nantes va tenir, va même avoir les occasions de l'emporter. Malheureusement, le HAC va s'imposer à la 87e et donner un... L'avantage et la victoire et ce qui va aller au classement, ce qui va inverser, on va voir ça juste après au classement. Dans le même temps, la belle surprise du SO La Roche qui va l'emporter 2-1 sur le terrain du LOSC. Ce qui nous donne au classement, je vous donne ça dans une seconde. Donc le Havre est en tête avec 45 points devant Nantes, 44. Lille, du coup, décroché 39 points, a quasiment dit adieu à tout espoir de monter, puisqu'il ne reste que deux matchs. Il restera... prochain match, c'est le 8, donc le lendemain de la finale. Dernier match à domicile pour les Nantaises qui reçoivent Saint-Maur, victoire obligatoire. Et puis, dans le même temps, le Havre, lui, se déplacera à Lille. Donc, peut-être que grâce à Lille, on peut repasser devant... Et toujours espérer la montée en D1.
Deux matchs à jouer.
Et le dernier match, ça sera à Lens pour les Nantaises.
Juste pour savoir, en cas d'égalité.
En cas d'égalité, du coup, c'est goal average particulier, vu que le Havre a battu Nantes sur ce match-là et qu'il y avait eu match nul au match aller ici à Nantes, ça serait le Havre qui passerait.
Ok, victoire.
Donc il faut absolument passer devant le Havre. On va espérer battre Saint-Maur. Hein. Alors venez nombreux. Je vous rappelle que c'est gratuit et peut-être que ce sera l'occasion de fêter la Coupe de France. On ne sait jamais. Elle pourrait arriver si Nantes gagne la Coupe de France le 7. C'est pas dit qu'elle pointe pas le bout de son nez à Marcel Saupin le 8. Donc allez-y nombreux.
Allez, on enchaîne avec le H. Le H qui jouait jeudi soir à la H Arena face à Aix. C'était les quarts de finale de la Coupe de France. Face au troisième du championnat qui doit en plus revenir le 30. Donc énormément de pression avant ce match. Et le H qui fait le job et qui s'impose 32-27. Alors un petit peu dominé en première période à courir derrière le score. Mais les Nantais font une superbe deuxième mi-temps. Hein, notamment un dernier très très bon quart d'heure. Et ils s'imposent 32-27. Ils retrouveront en demi-finale où Toulouse...
Toulouse, c'est tiré.
On a le tirage. C'est, tiré. Eh ben, c'est Toulouse parfait. J'espérais Paris, pas avoir le Paris Saint-Germain.
Oui, voilà. Et Paris, ça sera Chartres.
Ouais,
et donc, on croit même que c'est à Nantes, si je suis à vérifier.
J'ai pas l'info. Ce que je peux vous dire, c'est que Valero Rivera, notre capitaine, était en zone mixte au micro de Prune. On l'écoute après ce match.
Valero, bonsoir. Bravo pour la victoire. Ça n'a pas été facile ce soir. Il a d'abord fallu faire le dos rond en première, mais en seconde, vous avez su sortir les crocs pour finalement vous imposer de 5 buts.
Oui, les résultats pour moi, ça trompe un peu la réalité. Et vraiment, on a fait un gros match, on a dû le travailler et ça, bon, à la fin, on a fait l'écart, mais vraiment, c'était un match très compliqué qu'on a su bien gérer la deuxième mi-temps surtout.
Ouais, qu'est-ce qui fait la différence entre un quart de finale de Coupe de France en un match et un quart de finale de Coupe d'Europe en deux matchs? Comment on aborde ce genre de rencontre à élimination directe?
Surtout une qualification à deux matchs. Tu dois jouer beaucoup plus avec les scores, tu dois être plus patient parce qu'après tu sais qu'il y a un deuxième match qui arrive. Là, il faut jouer tout pour tout et bon, c'est un peu ça. Mais pour nous, on prend les matchs pareil, on les prépare et on essaie d'aller vers l'avant et gagner surtout.
Ouais, les temps faibles sont interdits dans ce genre de rencontre parce qu'on prend un écart et on ne peut plus revenir ni dans les têtes, on n'est plus là.
Oui, bien sûr. Il faut être concentré les 60 minutes, sinon tu ne gagnes pas contre ce genre d'équipe qui joue très bien. Et voilà, je crois qu'on a eu... On n'a pas très bien commencé le match, mais la deuxième mi-temps a été beaucoup mieux. Emile nous a aidé beaucoup aussi avec la défense. Et bon, je crois que c'est la clé.
Un mot pour le public ce soir? Super ambiance?
Incroyable, comme toujours. J'ai pas de mots. C'est vraiment incroyable de jouer dans cette salle, dans ce club.
Bon, ben, merci Valero, merci. Et puis à bientôt.
Et au voilà, programme, ouais. C'est dès demain.
Magdebourg demain, donc le leader de Bundesliga qui se présente à la Charena pour le quart de finale année de l'European League.
Et il reste des places. J'ai vu ça, tout n'était pas vendu. En fait, le HF a remis ses places en jeu, ainsi que Magdebourg qui n'avait pas pris. Donc n'hésitez pas, il doit rester encore quelques places, n'hésitez pas.
Oui, c'est sûr que ça va être guichet fermé. On était encore 5800 jeudi, ça sera pareil demain. Un mot du NRMV.
Le NRMV a perdu au Plessis Robinson 3-2, mais il est maintenu puisque Cannes a perdu dans le même temps.
Et ça, c'est la bonne nouvelle pour Nantes.
Oui, la petite mauvaise nouvelle dans le coin pour le volet, c'est la défaite 3-2 de Saint-Nazaire à Saint-Jean-d'Illiac. Rien n'est fait, mais il faudra absolument gagner et pas se craquer sur le match retour à Saint-Nazaire.
En play-off, hein, pour eux. Hein. Très bien,
Et puis, il me reste un mot de basketball. Puisqu'il y a une équipe qui joue encore, c'est l'Hermine qui a gagné 92.
Alléluia!
Alors attends, je peux redire le score. 82-71, c'était contre Souffel-Weyersheim, l'équipe sud-Alsace.
Ça y est, Maëlan, on est complet sur les...
Je te donne le classement.
Au classement, du coup, Nantes est toujours 16e, à égalité avec Quimper, qui est juste, du coup, qui est Tours, qui sont eux, 15 et 17, Boulazac aussi. Donc ça va être encore très serré pour savoir qui, finalement, va se maintenir. Oui, oui. Rouen, eux, on n'en parle plus. Ça va être très très serré. Le prochain match, c'est 31e journée, ça sera le déplacement à Tours. Donc ça va être
gros match
face à des équipes où on est à égalité.
Allez, il reste 10 minutes, mais là, on passe au reste de l'actu sportive, c'est multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence avec le tennis et Belgrade. Est-ce que Djokovic a été maître en son royaume?
Eh bah, bien, pas du tout. Et bah, il porte pourtant avec un bon parcours. À chaque fois, il a su se défaire, notamment de Kachanov, de Kasmanovic, un de ses compères, à chaque fois en 3-7. Mais le dernier match en 3-7, c'était face à Rublev, la tête des séries numéro 2 de ce tournoi. Il est défait 6-2, 7-6, 6-0. 13e bicyclette en carrière pour le Djokovic, mais du coup pas de titre pour lui à domicile. Rublev qui lui par contre est en très, très bonne forme et un très bon début de saison pour lui, et bah qui du coup est dans le top 10 et même top 8 du classement ATP.
Il ira pas jouer Wimbledon, hein,
tu sais. Non, ça à mon avis ça risque d'être compliqué pour Rublev, malheureusement, avec
pas que lui, Medvedev aussi.
Russe, hein. Medvedev aussi, il est biélorusse aussi, donc c'est une décision de la Wimbledon. On verra si ça évolue d'ici là, mais bon, malheureusement il y a très peu de chances. Mais donc voilà, donc Novak Djokovic qui ne remporte pas ce tournoi, lui qui revient au fur et à mesure en compétition après des mois d'absence suite avec le Novak Djokovic. On sait l'histoire au Covid, tout ça, il n'avait pas pu faire beaucoup de tournois, notamment pas l'Open d'Australie. Il revient, il sera sans doute là, notamment pour Roland Garros.
Ouais, on part à Barcelone avec une confirmation.
Alcaraz, encore une fois lui, 18 ans.
C'est lui qui a gagné Miami. Hein.
Il a gagné notamment effectivement Miami, et là il remporte l'ATP 500 de Barcelone en finale. Il bat Carreno Busta, son compère espagnol, 6-3, 6-2. Il s'est notamment défait en demi-finale de Alex de Minaur, 6-7, 7-6, 6-4. Un match très serré face au jeune Australien aussi, hein, très prometteur cette saison, qui fait de grands matchs. Et notamment de Tsitsipas en quart avec une victoire 6-4. 5-7, 6-2. Donc, vraiment, encore une fois, un très beau parcours d'Alcaraz qui montre qu'à 18 ans, c'est
lui la présenté comme le nouveau Nadal, hein, par les observateurs. Ils ont dit ce
pas
week-end qu'on risque d'en prendre pour 15 ans. Hein.
Mais c'est encore une fois un Espagnol qui va peut-être encore une fois dominer la
carrière. Un rat de cour.
Exactement. Du côté de la WTA, on était notamment à Stuttgart et on a eu le droit à une belle victoire pour la numéro 1 mondiale, c'est Iga Swiatek, 6-2, 6-2, face à Sabalenka, la Biélorusse, qui elle, du coup, non plus ne participera pas, à mon avis, à Wimbledon, Biélorusse oblige. Et donc voilà, donc une nouvelle victoire pour Iga Swiatek, qui s'en est à 24 ou 25 victoires d'affilée pour l'instant, et c'est pour dire le niveau actuel de la numéro 1 mondiale. On était aussi notamment à Istanbul avec une victoire de Potapova devant Kudermetova. Donc un duel russo-russe en finale. Mais c'est Potapova qui s'impose 6-3, 6-1.
Allez, golf, PGA Tour, c'était le Zurich Classic, compétition de double.
Exactement, et on a eu le droit à une victoire de Patrick Cantlay.
Victoire américaine, ouais. Patrick Cantlay, Xander Schauffele qui s'impose en moins 29 devant une autre paire américaine, Billy Horschel, Sam Burns.
Exactement.
Paul Barjon, associé à Tom Hoggy, n'a pas passé le cut. Bon, bah, on commence à être un peu habitué.
Malheureusement habitué. On espère un jour qu'il passera un cut.
Top 14, Jean-Marc. Là, il y a des infos, notamment la bonne série des Toulonnais qui s'impose face aux champions de France, Toulouse.
Tu étais content de cette victoire au stade Vélodrome.
19-15 pour les Rouges et Noirs. Exactement. Face aux autres Rouges et Noirs.
Exactement. Très belle ambiance à Marseille. Et du coup, Toulon garde encore ses chances de pouvoir accrocher le top 6.
Huitième à 3 points des play-offs seulement, donc 4 points... 4,
à 3 points, de Lyon et Toulouse qui sont à égalité à la 6e place.
Et combien de matchs à jouer ? 3 matchs encore.
Hein. Il reste 3 matchs à jouer.
3 matchs, 15 points possibles, donc tout est possible pour les,
largement.
Pour les Toulonnais. Qui seront en concurrence donc avec Toulouse et Lyon, hein, pour cette place de barragiste.
L'autre bon coup de la journée, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui s'impose sur le fil face à Montpellier, donc en terrain montpelliérain.
23-22.
23-22 grâce à une pénalité de Maxime Lucu à la 80e minute de jeu, donc en toute fin de match. Du coup, ça permet notamment à Bordeaux de revenir sur Montpellier à 2 points. Donc ça va être très serré pour cette première place. De l'autre côté, on avait aussi le
samedi. Surtout, est-ce que je voulais parler de ce magnifique essai du talonneur, c'est Lecomte, je crois, qui fait un cadrage débordement sur un 3 carrel avant
d'en le Bordelais.
Oui,
Lamotte.
Lamotte, pardon, pas le.
Lecomte, c'est moi.
C'est, Lecomte, c'est toi. C'est Lamotte, cadrage débordement, et puis derrière qui va enfoncer un défenseur qui vient essayer de le plaquer. Magique pour un talonneur, c'était magique, et une course de 45 mètres. quand même.
Rien à dire.
Absolument magique. Et du coup, bravo aux Bordelais d'être revenus dans la course.
Ouais, victoire d'un point hein, en terre montpelliéraine.
De l'autre côté du samedi, on avait notamment la victoire de Lyon qui du coup se maintient pour essayer de intégrer le top 6, une victoire 31 à 17 face à Brive avec notamment un très bon Léo Berdeux. La Rochelle qui s'impose face à Perpignan 32-16 et aussi on a eu le Racing Main qui s'impose 40 à 7 face à Biarritz.
Biarritz condamné. Hein.
Exactement, le mauvais coup de la journée c'est pour Clermont qui malheureusement perd 12-0 à Castres. Malheureusement, du coup, Casse qui, eux, peuvent enchaîner et toujours espérer intégrer potentiellement le top 2 de ce top 14. Ils sont seulement à 5 points, donc une victoire bonifiée des Bordelais. Donc ça continue à essayer de se maintenir. Eux, clairement, commencent un petit peu à abandonner l'espoir du top 6. Ils sont relégués à 5 points quand même des Toulonnais et des Lyonnais. Et vu comment c'est serré au-dessus, ça risque d'être compliqué, surtout avec la forme en plus de Toulon, tout ça. Donc clairement, ça va pas être simple.
Jean-Marc, toi qui as quelques années de vol, ça te fait quoi de voir les anciens champions de France, Biarritz, Perpi, continuellement faire l'ascenseur et pas ne jamais réussir à gagner 10 matchs dans la saison?
Et ben c'est là que tu vois qu'il y a vraiment le côté professionnel du rugby qui a pris le pas, l'argent a pris le pas. Quand tu vois que des équipes comme Montpellier vraiment se retrouvent en tête et qu'inversement
les grandes villes, on va dire.
Voilà, les grandes villes. On est vraiment passé au rugby de grandes villes. Avec des équipes qui peuvent attirer jusqu'à 20 000 personnes.
Lyon, Montpellier, hein, ça c'est évident.
Même La Rochelle.
Hein, ces équipes-là.
Ou même une équipe comme La Rochelle. Mais La Rochelle, c'est pareil, tu montes presque à c'est 17 000, je crois. Alors que Biarritz, qui est un stade de 10 000, ou Perpignan aussi, c'est 12 000, qui sont sur des petites équipes. Et puis, il y a certaines concurrences. À Biarritz, ça va être Bayonne, la concurrence. À Perpignan, ça va être les Dragons catalans en rugby league. Du coup, chaque truc fait que c'est des équipes.
Ouais, économiquement, il n'y a pas de la place pour deux clubs.
Ça paraît compliqué. Et du coup, j'en profite, moi, si on a été complet sur le rugby, je voulais glisser un tout petit mot du Stade Nantais, puisqu'on n'avait pas pu en parler, c'était la semaine dernière. Et un dernier match de poule avec une victoire 122 à 6 contre l'ACBB, Boulogne-Billancourt. Du coup, le Stade Nantais qui finit quand même avec 106 points. Donc bravo à eux et qui attaque, je crois que c'est le week-end prochain, les 16e de finale du Championnat de France de Fédéral 2.
Je voulais juste annoncer un petit dernier résultat, c'était la Coupe de France de basket masculine et la victoire de Paula Cortez sur la SIG de Strasbourg. C'est la quatrième fois qu'ils soulèvent la Coupe de France, ça faisait 15 ans après leur dernier sacre, donc ça fait du bien du coup au Paula Cortez.
Et du coup, je rebondis puisque tu as parlé de basket homme,
je vais parler de Monaco.
Basket femme, on pourra parler de Monaco juste après contre l'Olympiakos. La première victoire de Basketland, équipe de Céline Dumerc, au bout de la deuxième prolongation hein, quand même, face à Bourges, hein, Bourges qui en a gagné 36 000. Et du coup, si tu parlais,
puisque Monaco s'est pas encore fait le Final Four, mais pour l'instant, un partout dans la série face à Olympiakos, équipe mastodon de l'Euroleague. Hein.
Ils avaient perdu le premier match chez eux ils sont allés s'imposer au Pirée. Donc ça va être sympa là encore de suivre cette série.
On sait depuis quand un club français a pas fait un Final Four d'Euroleague ? Ça fait.
Ça doit être Limoges en 93.
Ça date. Ouais.
Je dirais un truc un peu comme
Monaco,
ça. Donc
la Roca Team qu'on espère au plus haut dans cette compétition. Et après, il faudra passer quand même sur d'autres grosses équipes.
Prochain match à Monaco, mercredi.
Ouais, c'est au meilleur des combien de 5 hein. Meilleur des 5. Au meilleur des 5 matchs. Bon, voilà, Maëlan, on a été complet ce soir. On vous dit à la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est nos potes de Passage en Force, c'est de la NBA. À bientôt.
Ciao. Salut tout le monde.